Nous allons poursuivre par notre sujet principal. C'est un sujet taillé pour le direct, donc si vous écoutez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton chat, salon libre à vous. Vous pouvez aussi appeler au 09 72 51 55 46. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sous l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial, un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Aujourd'hui avec moi, autour de la table, Florence Chabanois, cofondatrice de la Place des Grenouilles, membre corps des Tech Rocks et de Duchesse France. Isabelle Carrère, d'Antanac, association proche qu'à Ami, mais aussi qu'à son siège est juste à côté du studio de la radio. Et Pierre Bessac, informaticien libriste de longue date, fondateur d'Eriomem.net, un service de stockage de fichiers. Bonjour à vous trois et merci de vous être joints à moi pour ce temps d'échange.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
On commence par cette actu, la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, a conçu et déployé la suite numérique visant à fédérer tous les agents et professionnels de la sphère publique autour de services disponibles à la carte et interconnectés pour une gestion fluide et efficace du travail collaboratif. Voilà, c'est l'annonce est tout récente, je pense, fin mai. Donc, qui veut prendre la parole sur ce premier sujet ? Qui est plutôt une bonne nouvelle pour le libre. Florence, peut-être, qui avait suggéré le sujet.
Non, c'était pas moi.
Ah non, c'était pas moi.
Du coup, le principe, c'est bien. Enfin, c'est bien. En tout cas, c'est pratique de faire en sorte que tous les agentes et agents puissent communiquer ensemble. Après, je me demande si on a vraiment accès à tout le monde, parce que du coup, ça fait un peu peut-être bizarre si c'est trop large, je sais pas. En tout cas, ça inclut Chap, la messagerie open source. Et Grist qui est un tableur. Donc moi personnellement je les utilise pas, mais vu que c'est open source, visiblement on pourrait tester pour voir ce que ça donne. Mais ce que je salue en tout cas, c'est que ce soit des solutions open source qui soient développées et que du coup peut-être ça va aussi familiariser la fonction publique à tout ça.
Alors, j'ai pas regardé moi le détail de cette annonce, mais est-ce que c'est en plus à côté en même temps que ce qu'on avait déjà évoqué, c'est-à-dire la suite LibreOffice, etc.
Pour moi, c'était assez à part.
C'est à part. Ouais, ça n'a rien à voir.
C'est en plus, oui. Ouais.
OK.
De ce que j'ai compris, oui. Mm. Bah, la DINUM a pas mal d'activités de soutien numérique aux services de l'État. Et donc, ils utilisent majoritairement le logiciel libre à chaque fois qu'ils peuvent. Donc, souvent, en fait. Donc, ils font un bon boulot, en général, à suivre. Concernant CHAP, effectivement, on peut pas... Enfin, c'est une application qui est réservée aux agents de l'État. Donc, on peut pas... N'importe qui peut
pas
s'ouvrir
un compte de chat.
Ah, c'est dédié, okay. Vraiment.
Ouais, il faut avoir une adresse. Il faut montrer patte blanche en tant qu'agent de l'État, fonctionnaire, etc.
C'est, en
donc,
activité
ça permet, a priori, oui. Ouais. Je pense. Hein, oui,
après,
oui.
Quand tu t'en vas, check.
A priori, je ne sais pas comment ça marche, mais enfin, j'ai discuté avec eux lors des JDLL.
Parce les journées du logiciel libre qui ont eu lieu le 25-26 mai à Lyon. C'est un rendez-vous incontournable.
Exactement. Et donc, en fait, ils ont des petits groupes de discussion dans Chap qui permet à une sorte d'annuaire, en fait, des services qui permet de se connecter, enfin, d'avoir plus facilement des contacts avec d'autres administrations.
C'est une boucle par thématique ou par géographique?
Alors,
par,
ça peut être des boucles, ça peut être un annuaire aussi où tu peux retrouver quelqu'un qui travaille à l'autre bout de la France. Il y a un peu tout, en fait, de ce que j'ai compris. Hein. Après, n'ayant pas assez, je ne peux pas trop en savoir plus.
Vous n'avez pas trouvé à l'écrit un libriste quelque part qui vous donne des
informations? Il y a sûrement des libristes qui y ont accès.
Voilà. Bon, alors, en théorie, si quelqu'un là est des fonctionnaires et a accès, donnez-nous des informations sur ce sujet et comment ça se passe, comment elle est.
Je pense qu'il y a moyen.
Trop savoir. Bon, il y a moyen.
Qui travaille sur Grist. Mais en fait, pour moi, comme c'était open source, je me disais qu'il y avait quand même moyen, tu vois, d'avoir une instance et déployer.
Ah oui, tu peux, mais ça va être séparé. Enfin, Chap, je sais pas quel est le statut de Chap, c'est un dérivé d'un truc open source, je sais pas si Chap lui-même...
Peut-être un fork
ou
quelque chose, tu sais, sur un...
Ouais, mais tu peux, effectivement, dans la plupart des cas, tu peux créer tes propres instances avec ton groupe, en fait, voilà.
C'est son petit WhatsApp privé, quoi. Et,
son petit quoi?
Ouais, pardon, c'est son petit Mattermost. Ouais. Je sais pas. Signal.
On peut peut-être rappeler ce que c'est Mattermost et Signal pour les personnes qui connaîtraient pas.
Ouais.
Parce que vous les avez cités, donc je suis obligée de demander.
Non, je t'en prie. T'es obligée.
Je sens que je vais encore faire une blague. Mattermost, c'est un outil, c'est open source, pour moi, il me semble.
Oui, oui.
Qui est un espèce de chat. Donc une... une plateforme où les gens discutent.
Une messagerie.
Bah, une messagerie
instantanée. Une messagerie instantanée. Ah, ben voilà, après, c'est tous ces termes. Mais du coup, moi, c'est ça que, pardon, du coup, je fais une petite parenthèse, mais moi, c'est ça que je trouve ça compliqué, qu'on habitue les personnes à parler des choses par un nom qu'on a inventé et non pas par la chose. Tu sais, c'est les gens, moi, je vois à Antanac, les gens, du coup, ils disent Excel. En fait, ils veulent dire tableur.
C'est l'exemple typique.
Mais on leur a mis, Excel dans la tête depuis je sais pas combien de temps et du coup, ils sont incapables de dire tableur. C'est pas qu'ils veulent pas se mettre maintenant à utiliser un tableur libre et qu'ils acceptent pas calque quand on leur met dans les pattes et ils sont très contents. C'est pas la question. C'est que du coup, eh ben, là, je trouve que c'est la même chose. Pourquoi messagerie instantanée? Toi, tu dis, ça te fait penser à, les mails, c'est bah, ça? Mais en fait, messagerie, ça veut dire on mail, se parle, quoi. Oui. Donc, je sais pas. Trouvons d'autres mots génériques, en quelque sorte, parce que plutôt que de...
Des salons où on peut aller discuter avec les membres de d'une même équipe.
Salon, ça a été mis avec les trucs avec la vidéo, le salon, ça a été utilisé pour ça surtout, non?
Aussi.
C'est-à-dire, c'est une adresse que tu donnes avec Meetjitsi, par exemple, où tu vas te connecter, puis là, tu vois les gens et tu leur parles. Ouais.
Mais dans Mastermost, de ce que j'ai cru voir, il y a des, parce qu'on l'utilise, dans les partis politiques aussi, il y a des salons, effectivement, des sortes de groupes de discussion, en fait, des forums, enfin, thématiques, et puis il y a la partie messagerie directe privée.
Oui.
Effectivement, oui.
Et Signal, c'est une autre messagerie instantanée, je crois que c'est libre seulement en partie.
C'est pas complètement libre, pas complètement. Et surtout, le gros truc, c'est que Signal oblige tous les utilisateurs à avoir un smartphone pour l'installer. C'est-à-dire que si tu veux installer la version sur un ordinateur, ce que j'ai tenté de faire un moult fois, ben tu peux pas si tu n'as pas de smartphone. Alors donc ça pour moi c'est pas libre quoi. Tu vois, vraiment il y a un truc dans lequel dès que pour moi il y a la question du libre tel que voilà l'April en parle, mais il y a aussi la question de les libertés que j'ai envie de garder moi. Et si je ne veux pas avoir un smartphone, pourquoi faudrait-il pour utiliser tel système, tel appareil, telle plateforme, tel machin, pourquoi je dois quoi.
Je voulais rebondir sur la remarque que tu as faite à propos du fait que c'est bien de rappeler la fonction en fait qui est le logiciel nous permet d'avoir. C'est très intéressant et ça me rappelle aussi un débat par rapport au CV quand les gens disaient bah oui mais moi j'aimais j'aimais en fait sous les CV que j'ai utilisé par exemple Excel si tu utilisais Excel, un tableur, elle te prendra peut-être un peu de temps d'acclimatation, mais au bout de quelques jours tu sauras utiliser n'importe quel tableur. Donc aussi les tableurs sur le logiciel libre, c'est une très bonne remarque de surligner en fait la fonction qui permet d'avoir un logiciel plutôt qu'un autre. Est-ce que vous souhaitez dire autre chose sur ce sujet de la suite numérique?
Et alors cette suite numérique, du coup, elle va être installée partout pour la totalité des fonctionnaires sur l'ensemble du territoire, y compris Outre-mer, etc.
Alors, d'après l'annonce, et tous les agents publics seront équipés de la suite numérique.
Voilà, mais je trouvais que c'était pas clair, le seront, c'est quand, c'est maintenant, tout le monde en même temps, c'est plus tard, il y a des étapes, c'est pas décrit ça quelque part.
Et voilà, on va accompagner, on va vérifier si vraiment les personnes l'utilisent. Bien évidemment, c'est quelque chose à suivre. Là, c'est juste lancé pour l'instant. Après, il faut voir si ça marche, si ça fonctionne.
On sait pas comment ça va commencer.
Souvent, c'est des plateformes en ligne d'utilisation facultative, donc ça. Ça prend ou ça prend pas suivant. Mais c'est un usage qu'on permet.
C'est facultatif.
Bah, de ce que j'ai compris, oui.
C'est pas dorénavant et désormais, la communication passera de manière privilégiée par quel endroit.
Florence, qu'il y avait une incitation. Parce que pour moi, Tchap, c'est quand même déjà. Il y a déjà eu le message du gouvernement qui disait on veut inciter à avoir une messagerie unique parce que fatalement si on n'a pas tout le monde dessus on peut pas vraiment parler avec tout le monde, ça marche pas quoi sur la fonctionnalité. Et par contre la grande différence avec ce lancement de suite numérique, c'était la partie SSO où du coup c'est une connexion centralisée et où tout le monde et le côté annuaire aussi centralisé qui fait que là on passe un peu au-delà des frontières des départements de chaque filiale du gouvernement. Bref, on peut atteindre n'importe quel agent ou agent. Et je pense que c'est ça le vrai...
La seule chose intéressante, moi, que je voyais là-dessus, tu as raison de le soulever, c'est-à-dire c'était à la fois tous les services, mais aussi tous les grades. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait aller interpeller quelqu'un là-haut, même si on était un agent territorial dans un coin quelque part. Et donc, ça, si c'est vrai, ma foi, ça peut être intéressant.
Peut-être expliquer ce qu'est le SSO dans l'affaire.
Oui, Single Sign On. Après, j'ai essayé de me rattraper en la connexion centralisée.
Bon, on a un compte et on n'a pas besoin de créer un compte pour
Single
Sign On.
Oui, tu as ton compte, tu crées ton compte, et puis une fois que tu as ton compte créé, tu peux te connecter sur tous les morceaux, toutes les applications, elles sont toutes reliées au même compte, et tu n'as pas besoin de créer un compte par application, donc c'est beaucoup plus simple.
Est-ce que dans le domaine, ça c'est dans les entreprises que ça se trouve, n'est-ce pas? C'est pas les
parties. N'importe où, en fait, ça peut être...
Bah toi, t'as pas un SSO, par exemple, toi, avec toi-même, chez toi.
Ah bah si, je pourrais, pratiquement, si. Oui. J'en ai pas en pratique, non, mais oui.
Tu veux dire, on ne l'est pas.
C'est plutôt entreprise et administration, etc. Ouais, oui, c'est plutôt dans un cadre professionnel.
Ouais. Est-ce que l'histoire de France Connect, que peut-être les auditeurs connaissent, c'est la même chose, c'est un SSO, c'est ça?
C'est similaire, oui, l'idée.
Ah, c'est un bon exemple, ça devrait parler aux auditeurs et auditrices.
C'est ça,
oui, c'est ça, absolument.
Ok.
Eh ben, bravo pour avoir trouvé un bon comparatif. Passons au sujet suivant. Microsoft 365 Education a été attaqué par deux plantes.
Deux plantes. Ah ouais, lesquelles? Ah, les plantes grasses, j'espère.
Quand on a une animatrice qui a vécu longtemps en Italie avant de venir en France, bah voilà, on peut tomber sur ce genre de gourde. Bourde, exactement. Donc, Microsoft 365 Education a été attaqué par deux plaintes de l'association autrichienne NOIB. Mm-hmm. Donc c'est une association qui, en gros, c'est un peu l'équivalent de la Croix d'Athieu du Net en Autriche, en sachant que la Croix d'Athieu du Net, c'est une association nationale qui s'intéresse et qui, notamment, de la vie privée sur Internet. Qui se lance donc Pierre est chaud pour se lancer.
Je peux en dire un mot. Oui, NOIB, ça vient de None of Your Business, qui veut dire ma vie privée. Là, j'ai visé ma vie privée et None of Your Business. Là, ma vie privée n'est pas vos oignons, en fait. Et le fondateur est très connu, puisqu'il s'appelle Max Schrems, il a défoncé un certain nombre de législations européennes, les accords européens entre l'Union européenne, pardon. Et les USA qui permettaient de contourner un peu le RGPD pour envoyer des données personnelles aux GAFAM.
RGPD, on rappelle.
Donc le règlement général sur la protection des données, qui lui-même est dérivé de la loi informatique et liberté française, notamment, et des lois allemandes équivalentes, en particulier. Donc ça a été étendu au niveau européen, ça fait quoi, 6, 7 ans, quelque chose comme ça, vers 2015, 2016.
Ouais, ça fait presque 10.
Ça a été révisé, en fait, mis au goût du jour. Oui. Et il y a évidemment, comme ça casse les pieds des GAFAM, il y a eu des trous qui ont été faits dedans avec des accords avec les USA qui ont sauté grâce à Max Schrems et qui ont été remis récemment, ce qu'on a appelé l'accord gaz contre données perso, parce que ça, comme par hasard, lorsqu'il a fallu trouver du gaz ailleurs que en Russie et qu'on a fait un deal avec les USA là-dessus, ce qui avait été démonté par Max Schrems a été refait pour repermettre des échanges. Et donc, en fait, voilà, il y a eu Schrems 1, il y a eu Schrems 2, il y aura peut-être Schrems 3. C'est le nom juridique en hommage à Max Schrems et à son action avec son équipe pour essayer de protéger un peu mieux qu'elles ne le sont nos données personnelles.
Bah, tu as très bien bossé ton sujet, Pierre.
Ça m'arrive.
mais là, du coup,
sur un malentendu.
Il n'a pas parlé du sujet en vrai.
Oui, du coup, j'ai pas parlé du sujet. C'est vrai.
Il n'a pas dit qu'est-ce que c'était les plaintes.
Alors,
qu'est-ce qu'on reproche à Microsoft?
Mais il a bien creusé.
On reproche plein de trucs à Microsoft. Est-ce qu'il y a besoin d'expliciter ce qu'on reproche?
Mais non, mais là
Microsoft.
Spécialement.
Sur ce sujet-là, j'avoue que j'ai pas regardé le dossier en détail. Je pensais que c'était important, mais en fait. Il y a tout un tas de casseroles derrière les trucs Microsoft, en particulier quand ils sont en ligne, en particulier depuis qu'il y a les nouveaux accords, l'extension de la loi FISA aux États-Unis, qui est le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui permet aux services secrets américains d'enjoindre les sociétés états-uniennes même opérant sur le sol européen, en fait, de donner des, de fuiter des informations aux services secrets. Alors, je ne sais pas si ce point-là particulier fait l'objet du...
Non, c'est pas ça. Bon, j'arrive.
Excuse-moi, vas-y, Florence. Ouais.
J'arrive. Parce que Florence aussi a bossé sur ce sujet.
Ouais. Florence
mieux bossé, arrive.
Bah, je trouve que c'était très intéressant ce que tu as dit. Mais je voulais compléter aussi par rapport à l'actu. Du coup, c'est Noïb, effectivement, qui a attaqué l'Autriche suite à une plainte d'un parent d'élève qui avait demandé des comptes, en fait, sur le fait que l'école utilisait la suite Office 365. Le Google, non c'est pas Google, c'est Doc, comment on dit déjà, Word, Word, les vidéos,
Office,
Teams et tout, tous les utilitaires. Et du coup, elle avait demandé d'avoir accès aux données. Microsoft l'a renvoyé vers l'école. L'école leur a dit que c'était les emails uniquement, la seule donnée personnelle qui était utilisée. Sauf que, il y a des visios qui sont aussi réalisés dans le cadre de l'école et les vidéos sont stockées, donc elles sont encore disponibles. Et sur ça, du coup, Microsoft a dit qu'il fallait se tourner vers l'école pour gérer ça. Et là où ça passe pas, c'est que l'école, normalement, dans le RGPD, est censée avoir la possibilité d'exercer des audits auprès de ses sous-traitants. Parce qu'on imagine une école primaire ou un collège en Autriche demander des comptes ou faire un audit à Microsoft. Je ne crois pas. Et du coup, il y a ce côté non réaliste qui fait que du coup, l'association, au nom de cette plainte, porte plainte, enfin en tout cas, attaque justement Microsoft.
Oui, tout à l'heure, tu as dit qu'il attaquait l'Autriche.
Oui, pardon, je me suis trompée. Ouh là là, pas du tout la pauvre Autriche.
Non, mais c'est bien. Isabelle, tu voulais peut-être rebondir?
Oui, j'avais envie de rebondir parce que moi, la question que ça m'a posé, ce sujet-là, tel qu'exposé là par Pierre et Florence, c'est pourquoi est-ce que quand il y a comme ça une petite plainte, un sujet qui est levé par quelqu'un, pourquoi il n'y a pas immédiatement une espèce de consortium de gens, d'autres gens ailleurs qui viennent et qui soutiennent cette plainte et qui disent, nous aussi, on a tel autre exemple, etc. Je me dis, à quel moment on va y arriver à ce qu'on soit pas simplement le petit truc qui, oui, peut-être, ça fait du bruit, ok, on en parle aujourd'hui, ok, un petit peu, mais c'est pas assez. Comment se fait-il qu'il n'y a pas, parce que tout le monde a des exemples de ce qui se passe là, c'est évident que c'est pas la seule école dans laquelle ça se passe, et c'est évident que nous, ici en France ou ailleurs, on a les mêmes thématiques. Pourquoi on ne s'est pas rallié, et quelle serait la bonne mécanique, plutôt que pourquoi c'est pas juste une accusation de pourquoi on le fait pas, c'est juste quelle serait la bonne mécanique pour le faire et pour rejoindre ces luttes là et avoir un poids, parce qu'on a un poids gigantesque, énorme si on veut le faire. On a un poids en face de Microsoft. On n'arrête pas de dire, les GAFAM, ils sont très gros, etc. Mais non, en fait, nous sommes bien plus forts et bien plus nombreux. Et donc, quelle serait la bonne manip? T'as une idée, Florence, du coup, de comment, par quoi non. Ça pourrait passer le fait de rejoindre cette plainte-là et de s'y coller avec?
En tout cas, pour moi, il y a les CNIL européennes qui régulièrement se... J'aime bien son soupir.
Vous ne voyez pas, la radio, on voit pas ma tête.
On ne voit pas Isabelle, la radio.
Il y a un gros poids qui tombe par terre. En tout cas, factuellement, aujourd'hui, il y a ça. Par contre, c'est vrai que côté associatif, moi, à mon niveau, j'ai pas vu d'alliance, en tout cas, constante.
Mais juridiquement, on pourrait le faire comment? On pourrait le faire juridiquement?
Je vois pas pourquoi.
La quadrature, déjà, a fait des actions de ce type en France pour attaquer en groupe, l'équivalent des joint actions américaines. On a déjà des choses qui le permettent, mais c'est difficile de mobiliser là-dessus en France, en fait. C'est pas évident.
La quadrature a fait
quelque chose il y a quelques années, mais...
On a le même truc. On a le gouvernement qui a passé des accords avec Microsoft dans les écoles. Pareil. Donc, du coup...
On avait cité l'Allemagne. Donc là, on a cité l'Allemagne, l'Autriche. Ouais. Après, la France le fait, mais il me semble que ta question, c'est pourquoi est-ce que les différents pays de l'Europe ne s'allient pas ensemble au-delà d'initiatives locales?
Le RGPD permet des choses comme ça. Et après, les autorités de protection des données dans les différents pays n'ont pas forcément toutes les mêmes moyens et les mêmes volontés d'agir. Donc, c'est comme tu l'as remarqué. Donc, c'est pas évident.
J'entends. Mais moi, sur la durée, je pense ce qui me manque, c'est le machin de par où ça passerait. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire le pas suivant?
Il faudrait taper dans tous les sens. Enfin, il faudrait augmenter déjà sûrement les pouvoirs des autorités de protection de données et peut-être même déjà leurs moyens. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi,
avoir une. Donc, tu parles des CNIL nationales.
C'est ça. Mmh. Voilà, exactement. Les CNIL qui sont dans. En fait, il y en a dans tous les pays. Il y a aussi une complexité, c'est que pour des entreprises multinationales, le lieu d'action doit être dans le pays où l'entreprise a posé sa résidence. Donc, si Google décide d'être représenté en Irlande, il faut que ce soit l'autorité irlandaise qui gère. Et évidemment, elle est un petit peu moins motivée à agir contre Google, qui produit pas mal de chiffres d'affaires chez eux, que ne le serait la CNIL ou l'autorité allemande. Donc, il y a des choses probablement à faire évoluer au niveau législatif européen là-dessus. Hein. Mmh. Ça, c'est clair.
J'ai une remarque de mon collègue Étienne à ce sujet. Je suis d'accord, il dit le besoin de coordination des luttes, mais n'oublions pas aussi que les plaintes de Max Schrems ont permis à elles seules d'aboutir à la décision de la Cour de justice, ce qui a permis à l'époque de faire tomber la Privacy Shield évoquée par Pierre tout à l'heure.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Voilà. Du coup, il veut dire qu'on y arrive aussi localement, c'est ça ?
Il n'y a pas obligatoirement tout le temps besoin, c'est ça qu'il dirait, Étienne. Il n'y a pas tout le temps besoin d'être plus nombreux que ce que ça n'est là, c'est ça ?
Tout à fait. Après, cette plainte, voilà, s'il n'y avait pas cette actu et Pierre n'en avait pas parlé, peut-être qu'elle n'arrêterait pas si en exergue chez nous. Donc, peut-être qu'aussi, il faut communiquer davantage sur les bonnes nouvelles quand elles arrivent. Je vous propose, sauf si vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet.
Moi, j'ai peut-être un micro point, même si je suis pas forcément convaincue, mais je vais quand même l'exprimer. Je me demande si au niveau de chaque pays, l'implémentation du RGPD est la même, et du coup, les interprétations peuvent varier, ce qui fait que peut-être que chaque CNIL local, enfin national, du coup, ne se positionne pas de la même façon. Et en même temps, en disant ça, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi parce que c'est assez flagrant là que ça respecte pas. Et pour autant, on pourrait quand même s'allier. Donc j'imagine qu'on va déjà attaquer ce qui nous semble à peu près à notre hauteur. Et déjà même au niveau national, c'est vrai que c'est déjà assez énorme. Mais c'est une idée, hein. Peut-être que la Quadrature nous écoute.
Mon collègue Fred rappelle justement que le Privacy Shield est un dispositif de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis. Étienne rappelle qu'on peut aussi soutenir des associations comme NIOB. Ça peut être aussi une autre action possible parce qu'on est là pour parler de l'actualité du libre, mais aussi pour donner des moyens d'action. Donc allez voir ce que c'est NIOB, qu'est-ce qu'elle fait, s'il y a la possibilité d'agir avec ou de la soutenir financièrement déjà. Je vous propose de passer au sujet suivant, une vaste fuite met en lumière le fonctionnement de la recherche Google. Alors si je ne me trompe pas, cette fois c'est vraiment Florence qui l'avait trouvé ce sujet. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis mal préparée du tout.
Non, on ne sait plus parce qu'il y a eu des préparations dans tous les sens.
Tout à fait.
Donc, j'avais répondu.
C'est pas grave. T'avais répondu dessus. Vas-y.
Je ne sais pas qui l'a proposé. Bon, bref. Du coup, c'était la réaction de Stéphane Bortmeyer. C'est ça qui.
C'était un autre sujet lié.
Alors, excuse-moi, tu disais.
Mais là, c'est plutôt. On a mis dans la page de présentation de l'émission d'aujourd'hui, on a mis des références et notamment cet article qui est passé sur Next. C'est une mise à jour. Donc, nous mettons en garde contre les hypothèses inexactes sous la recherche basée sur des informations hors contexte, obsolètes ou incomplètes. Nous avons partagé de nombreuses informations sur le fonctionnement de la recherche et les types de facteurs que nos systèmes prennent en compte, tout en nous efforçant de protéger l'intégrité de nos résultats contre la manipulation. Ça, c'est le porte-parole de Google. Et voilà, j'avoue, je suis pas très préparée sur ce sujet.
Je l'ai.
Sauvez-moi.
J'étais pas sur la bonne ligne. Du coup. Oui, c'est sur le fait qu'il y ait une fuite, en tout cas un document de 2500 pages, il me semble, qui expliquerait le fonctionnement du moteur de recherche Google. Donc, c'est de la documentation, donc c'est pas tout à fait une fuite de données en soi. Mais du coup, qui mettrait en exergue le fait que pour mettre en valeur certains résultats par rapport à d'autres, on s'en doute un peu, mais là c'est aussi ce qui est dit. Il y a l'algorithme NavBoost qui log.
L'algorithme comment t'as dit ?
NavBoost.
D'accord.
NavBoost. Oui. BOOST.
qui monitore le comportement des utilisatrices et utilisateurs pour leur proposer les meilleurs résultats. Donc, par comportement, c'est les clics, le temps passé sur une page, c'est la lecture d'une vidéo, c'est le fait d'affiner une requête. Et du coup, ça pose des questions sur, sur tout ce qui est pistage, en réalité.
On est d'accord que c'est pas nouveau, ça? On le savait que c'était.
Oui, mais du coup, ça conforte encore un peu plus.
Oui et non, parce que, en fait. Je te laisse terminer, peut-être, je sais pas. Bon, en fait, c'est Chrome qui épie l'utilisateur de manière plus fine que ne pourrait le faire un navigateur quelconque. En fait, Google étant l'auteur, enfin, l'éditeur de Chrome aurait mis, a mis apparemment, des mouchards dedans pour, suivre ton comportement en tant qu'utilisateur de plus près et s'en servir pour valoriser mieux noter les pages que tu consultes, voir l'intérêt que t'as pour les pages, le temps que tu mets à naviguer à droite et à gauche. Donc par exemple, alors je vois pour citer l'article de Next, le contexte de l'action, par exemple quand les actions sont des clics sur des images et des vidéos, les clics et l'engagement pendant et après la requête principale seraient également pris en compte. Par exemple, quand on effectue une recherche et qu'on la modifie, les résultats n'offrant pas satisfaction. Il tiendrait également compte de l'emplacement géographique et de l'utilisation d'un appareil mobile ou d'un ordinateur. Alors il y a des choses qui peuvent être faites avec n'importe quel navigateur, mais a priori Google semble avoir mis en plus des choses dans Chrome pour nous épier un petit peu plus et donc remonter ça comme information de propice à améliorer les résultats de recherche en fait. Et notation des sites, donc résultats de recherche. Donc c'est assez problématique.
Ouais, mais c'est vrai que pour moi, je te rejoins Isabelle, moi ça m'avait pas tellement étonné.
Bah oui, mais pour moi c'est un truc, c'est pas une nouveauté. C'est pour ça qu'on dit aux gens de pas aller sur Google et qu'on leur dit de pas utiliser Chrome et qu'on leur dit d'aller plutôt sur Firefox et de choisir des bons moteurs de recherche. Enfin, tu vois.
Oui, mais il y a différents degrés en fait.
Pour moi c'est pas nouveau. Oui,
t'as un degré. Le fait qu'ils utilisent des informations aussi précises, c'est quand même ils s'en sont cachés d'ailleurs. Enfin, a priori,
ça apporte une preuve de quelque chose qu'on savait. Quoi,
ça apporte une preuve de quelque chose que ça va plus loin que ce qu'on pouvait penser. Voilà, donc c'est
encore plus loin. Donc 2500 pages d'augmentation et tout à l'heure j'ai pas été précise, mais en fait ce que j'ai lu c'est le porte-parole de Google qui confirme l'authenticité de ces 2500 pages. Voilà.
Il y a un élément qui m'a étonné du coup pour des choses que j'avais pas suspectées jusqu'ici, c'est que il y avait aussi la possibilité de l'algorithme pour promouvoir un contenu par rapport à un autre, qu'ils arrivaient ou essayaient de reconnaître les auteurs du contenu en se disant, et ça pour le coup, tout à l'heure on parlait de données personnelles, enfin ça c'est quelque chose que j'avais jamais entendu pour le coup sur
dans NavBoost, tu veux dire,
en tout cas dans l'algorithme. Je sais pas si c'est rattaché à NavBoost, je dirais pas ça, je pense pas que ce soit lié à NavBoost pour moi c'est pas lié au comportement, c'est plus lié au contenu, donc voilà.
Et à propos, sauf si vous avez d'autres choses à dire sur ce point, parce qu'à propos de moteurs de recherche, donc nous, à l'April, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui utilisent le moteur de recherche DuckDuckGo. Si vous utilisez ce moteur de recherche, le 23 mai 2024, donc tout récemment, vous aurez peut-être remarqué qu'il était plus disponible. C'était impossible de faire de recherche. Et en fait, à cette occasion, des personnalités du monde du libre comme Bortmeyer ont rappelé en fait que DuckDuckGo se base en partie, au moins sur Bing, et que donc en fait c'était cette défaillance de Bing qui a provoqué aussi la défaillance de DuckDuckGo. Donc on est un peu dans l'impasse, c'est-à-dire qu'on suggère un moteur de recherche qui finalement est dépendant aussi de cette solution qui n'est pas libre. Donc, comment on fait qu'est-ce qu'on fait?
Oui, parce qu'en fait, des moteurs de recherche complets, enfin, il y a en gros Google et Bing dans les grands, et énormément de moteurs de recherche redécorent un des deux principaux, en fait. Donc, effectivement, quand Bing lui-même est planté, il y a tout un tas de moteurs qu'on pense indépendants parce qu'on fait pas. Il y a Quant aussi qui a pas mal utilisé Bing à une époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais donc il y a plein de moteurs qui sont juste des redécorations avec peut-être un angle plus ou moins vie privée, ceci, cela, mais.
Décoration, c'est pas que des décorations. Parfois, il y a quand même aussi comme un peu une armure. Si je pense à Startpage, par exemple, qui a quand même mis des protections pour l'utilisateuriste de manière à ce qu'il n'y ait pas tout. Voilà, c'est basé sur Google, mais par ailleurs, il y a une armure un peu costaud quand même. Ouais. Pas... Bah oui, quand même.
Il y a, enfin, ouais, je sais pas.
Jusqu'à quel point on peut. Vous pouvez pas le voir, mais.
Je suis dubitatif.
Dubitatif. Non, mais attends, qu'il n'y a rien de vraiment, vraiment basé sur complètement autre chose, dont acte, très bien. Mais quand même, on n'est pas sur quelque chose de si pire, quoi.
Je sais pas, faut voir.
C'est, bah pour c'est moi, c'est pareil que DuckDuckGo par rapport à Bing, quoi. C'est du même ordre.
Oui.
Je trouve. D'accord.
Oui, oui.
Ouais, pas sûr.
Je dirais.
Florence, tu veux intervenir?
Moi, j'avais pas réalisé qu'il y avait autant, aussi souvent Bing derrière, en vrai. Parce que du coup, j'utilise Lilo, DuckDuckGo et Ecosia. Et tous les trois sont basés sur Bing.
Ecosia aussi,
trois sur Bing,
Oui, bah du coup, j'ai tout vérifié et ils sont tous.
C'est ça. Donc Bing, pour dire quand même aux auditeurs, il faut leur dire, c'est Microsoft.
Ouais. Bien vu. Bien vu. Et entre DuckDuckGo et StartPage, par exemple, quelle est la différence?
StartPage, il est basé sur Google directement.
Ah, bah, c'est basé sur autre. Ouais, sur l'autre. Ouais, c'est ça. Et, d'accord.
Et moi personnellement, enfin, c'est vrai que nous, on en installe plusieurs exprès tout le temps, des moteurs de recherche sur les ordinateurs en Danac, hein, exprès pour qu'il n'y ait pas, une habitude d'aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre, deux, pour que les gens voient ce dont on parlait il y a deux minutes avant sur le « mais comment, en fait, pourquoi est-ce que tel moteur me propose ça alors que tel autre ça et tel autre ça ?» et de manière à rester en éveil sur qu'est-ce qui peut bien se passer derrière, quels sont les algorithmes qui sont là-dessus. Et dans nos formations, on fait ça régulièrement, on fait la même recherche, exactement les mêmes mots à la virgule près, et on regarde, allez, on met sur le tableau là 5 exemples, c'est quoi les réponses?
Ça, c'est une bonne habitude à prendre.
Oui, c'est une bonne idée parce que ça permet de voir justement si les résultats sont identiques, c'est qu'il y a a priori le même moteur derrière. Ça, c'est une bonne façon de vérifier.
Oui, ou bien des algorithmes comme ceux dont on vous parlait tout à l'heure, là, le NavBoost, il n'est pas obligatoirement pareil à chaque endroit, quoi, parce que du coup, il ne te regarde pas de la même manière.
C'est vrai que ça n'existe pas encore, ça, en fait, ce métamoteur qui affiche tout. On est d'accord.
Non, on le fait. Non, c'est-à-dire qu'on met dans Firefox, on met le truc, c'est la petite barre là, de recherche. Ouais. Pour cette recherche-là, rechercher avec. Et comme nous, on a installé 5 moteurs de recherche là-dedans, bah, du coup, on dit aux gens, allez là. Puis du coup, on regarde ensemble, OK, c'est quoi les résultats sur 5 écrans différents.
OK.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, on l'a vu avec Quant récemment, d'ailleurs, Quant a modifié ses conditions d'utilisation, parce que Microsoft leur demandait, pour utiliser telle fonction de Bing, ils demandaient de vérifier auprès des utilisateurs qu'ils étaient d'accord pour je ne sais plus quoi exactement.
Voilà. Oui, je ne sais plus, pour aller chercher telle et telle chose dans leur.
Pour fouiner dans leur.
Et DuckDuckGo, il développe absolument rien. Je croyais qu'il y avait une partie quand même.
Il a sa petite armure, comme je disais tout à l'heure, pour StartPage par rapport à Google, mais avec plus ou moins de protection. Et donc, effectivement, il est quand même sur certains endroits, il est dépendant, il reste dépendant. Mais comme StartPage, il reste dépendant de Google.
Pourquoi il n'y a pas un moteur de recherche? Parce que c'est titanique.
Je vous laisse poser la question, Isa. Pourquoi?
Parce que le web est grand et voilà, c'est coûteux. Très cher d'indexer le web.
Le web écran, donc... ça ressemblait à d'autres choses.
Oui, ça.
Le web est grand. On va pas le dire. On le traduit pas.
On va pas traduire. Mais voilà, oui, donc ça réclame énormément de disques et de ressources pour faire des recherches là-dessus. Donc forcément, les acteurs.
On dit titanesque, pas titanique.
Merci. Dans certains cas aussi.
Bon, mais si personne n'a dit quoi que ce soit sur le web est grand, tout va bien.
Bah, je pense que c'est le bon moment pour faire,
il faut faire une pause.
Une petite pause musicale. Donc, cette pause musicale nous est proposée par La Boussole, laboussole.coop, qui avait contribué à la campagne de financement de cause commune. Donc, un grand merci à La Boussole. Elle a laissé un message que les personnes de La Boussole ont laissé un message que je vous lis. La Boussole, coopérative de formation et de recherche spécialisée dans les méthodes d'éducation populaire, soutient les valeurs du logiciel libre et de la culture libre. Donc, nous allons écouter leur morceau, le morceau qu'ils ont suggéré, Ronin par Exetex, et on se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. We'll be right back.
Nous venons d'écouter Jonin par Exetex, disponible sous licence libre CC BY 4.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Ce titre nous avait été proposé par la coopérative de formation La Boussole qui avait contribué à la campagne de financement de Cause Commune. Occasion pour moi de remercier également Élise Lohim, Julien Negros, Laurent Jobert, Cédric Abonnel qui avaient choisi d'être remerciés à l'antenne suite à leur don pour la radio. Je suis Isabelle Lavani de l'April et nous discutons des actualités du livre avec Florence Chabanois, Isabelle Carrère et Pierre Bissac. N'hésitez pas à participer à notre conversation en appelant le 09 72 51 55 46 ou bien en vous rendant sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc, comme autre sujet proposé pour aujourd'hui, il y a cet article qui est apparu toujours sur Next. Mastodon, les chercheuses et les chercheurs n'ont pas finalement migré en masse sur ce service de microblogging décentralisé, donc alternatif à X. Pierre, tu voulais prendre la parole, je crois, sur ce sujet.
Oui, donc il y a une étude d'un certain nombre de chercheurs qui ont créé des comptes sur Mastodon. Alors Mastodon, c'est un logiciel. Ça permet de se connecter à ce qu'on appelle le fait divers. Donc une instance, enfin c'est un Twitter décentralisé. Donc il n'y a pas un seul logiciel. Mastodon, c'est le plus connu là-dedans, mais il y en a un certain nombre d'autres. Et vu la tournure que prenait Twitter, disons, depuis notamment son rachat. Alors Mastodon existe depuis des années, hein, mais à chaque fois qu'il y a un petit épisode sur Twitter qui rend pessimiste sur l'avenir de Twitter ou la communauté Twitter, les gens vont sur Mastodon pour essayer de trouver un substitut non propriétaire, enfin libre, etc.
Et on peut témoigner au niveau de l'April. L'April aussi a une instance Mastodon qui s'appelle Pwe.chapril, et nous aussi on a eu une vague d'inscriptions assez conséquente suite au rachat par Elon Musk de X, ce qui nous a obligé même à devoir clôturer pendant une période la possibilité de suspendre la possibilité de créer de nouveaux comptes parce qu'on était une petite structure, donc on n'arrivait pas à gérer, à modérer tous les comptes. Donc on l'a vu de nos propres yeux.
Oui, pour expliquer un peu, chacun peut créer sa propre instance et ces instances sont fédérées, donc échangent les messages comme on le fait pour le courrier électronique. Par exemple, il n'y a pas un opérateur centralisé de courrier électronique.
C'est le protocole qui compte, c'est le
voilà,
logiciel.
Les messages sont échangés, répliqués entre les instances, et puis on peut s'inscrire à tel ou tel endroit suivant la communauté d'intérêt qu'on préfère. Donc c'est un fonctionnement
très. Les instances sont hébergées où ?
Eh ben par chacun, comme tu héberges un site web, en fait, voilà.
N'importe qui a les compétences techniques peut héberger une instance Mastodon sur son serveur.
Alors ça peut être assez lourd à faire. On peut pas faire ça en trois clics.
Moi je pourrais pas.
Oui, c'est pas évident. Hein. Donc, avec des associations, avec des gens en groupe, on peut quand même gérer ça. Donc c'est un système un peu plus compliqué à utiliser qu'un système centralisé comme Twitter parce que c'est un peu à l'utilisateur pour la découverte d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il faut le faire de manière assez différente. Pour la recherche sur les contenus, c'est également plus compliqué. Il y a tout un tas de choses qui sont un petit peu plus compliquées, mais c'est quand même relativement utilisable. Et il y a une communauté derrière. Alors c'est plus gauche et geek, on va dire, plutôt mouvance de gauche hein, quand même. Et il y a pas beaucoup de journalistes dessus. Enfin, il y a moins de journalistes, il y a moins d'audience déjà que sur Twitter. C'est moins général. généraliste.
Comment tu peux affirmer cette connotation de gauche
On le voit aux communautés au type de contenu qu'on va circuler. Ouais, c'est plus engagé à gauche quand même,
ça dépend des instances, non ? Enfin, même si
alors
je pense
ça dépend
que
des
raison,
instances. Il y a des instances d'extrême droite, mais elles se sont fait bloquer parce qu'elles diffusaient des contenus racistes. Enfin, beaucoup de gens les ont bloquées.
Ils sont bloqués sur une instance donnée, mais j'imagine que eux bloquent aussi la gauche.
Enfin, alors après, probablement, oui, c'est aussi le problème, c'est que quand tu es décentralisé, tu vas avoir des choix différents sur ce que tu laisses passer ou pas. Donc ça devient beaucoup plus compliqué à appréhender pour les utilisateurs. Et puis tu peux même avoir carrément des guerres de chapelle, explicitement. Donc en fait, les chercheurs ont étudié l'adhésion en fait d'autres chercheurs à arriver sur Mastodon. Et donc ce qu'ils ont constaté, c'est que il y en a beaucoup qui s'y sont mis à l'époque où ils ont regardé, mais au bout de quelques temps, alors je sais pas exactement le temps, mais là il note que seuls 35,4% des utilisateurs universitaires de notre base de données sont actifs et constants dans leur utilisation de Mastodon. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement d'essai et puis peut-être de la déception par rapport à différentes choses, la visibilité peut-être qu'on y trouve. Donc en fait, la majorité d'entre eux font preuve d'un engagement sporadique, pour citer l'article. Donc c'est un peu ce qu'on observe effectivement. Il y a des vagues sur Mastodon. Ça a quand même pas mal monté depuis un an ou deux. Il y a des vagues comme ça d'adhésion. Les statistiques font état d'environ 15 millions d'utilisateurs, ce qui est ça a facilement dû doubler depuis 3-4 ans.
Actif et active ?
Alors actif pas forcément.
Ouais,
c'était plutôt les utilisateurs détectés donc après il y a sur la partie vraiment active, c'est difficile à anticiper et on voit enfin moi je le vois étant à la fois sur Twitter que j'arrive pas à appeler X, excusez-moi mais bon, maintenant faut dire X. Et sur Mastodon et sur Blue Sky, on voit suivant les sujets ce qui intéresse plus ou moins, sur lesquels on a le plus ou moins de réaction. Si on veut parler de logiciels libres, il faut plutôt être sur Mastodon, ça intéresse plus. Hein. Si on veut trouver des sujets d'actualité, c'est plutôt sur Twitter. Et puis Blue Sky essaie de remplacer Twitter d'une manière plus facile à utiliser que Mastodon, mais ça a un peu de mal à décoller pour l'instant. Blue Sky essaie d'attirer les médias, mais donc voilà. On pourrait penser que les chercheurs, de par leur activité, seraient intéressés par Mastodon, mais ça, la mayonnaise a un peu de mal à prendre. Voilà, c'est un peu dommage, mais sur la durée. Après, comme souvent, le libre, les choses comme ça fédérées fonctionnent mieux sur la durée. Il faut être patient. Au bout de quelques années, ça finit par rattraper des médias plus centralisés, mais voilà, c'est la patience et la longueur de temps. En conclusion.
Ouais, pas mieux. Effectivement, Mastodon, ce qui est cool, c'est que on est moins embêté en fait sur Mastodon.
Qu'est-ce que tu entends par là ?
Bah, comme c'est des instances où chaque instance a ses propres filtres. Donc, il y a des thématiques en fait par instance qui fait que tu auras moins de fachos qui vont venir ou de. En gros, c'est des gens qui se ressemblent, qui vont se regrouper, quels que soient nos centres, nos préoccupations. Et du coup, il y a moins de débats et il y a moins de clash aussi. Et comme ce qui fait quand même l'ADN et le pain de Twitter, c'est justement tout ce qui est scandaleux, tout ce qui est problématique. Du coup, il y a un peu moins de feedback et pour le coup, je pense que ça sert pas à Masto. Donc effectivement, comme tu disais, Pierre, c'est pas tout à fait les mêmes usages.
Isabelle, est-ce que tu as un avis ?
Ben non, t'as vu, c'est chouette.
C'est incroyable.
J'ai pas du tout d'avis sur le sujet parce que j'y connais rien là-dessus et que je continue à ne pas, j'allais dire adhérer, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire, je connais pas, je vois pas l'intérêt, ça me parle pas et je ne comprends pas les besoins qui sont derrière.
Le microblogging en général.
Je comprends pas. Moi, j'ai pas assez de temps pour m'amuser à faire des bloup bloup bloup, je sais pas quoi là, pour aller chercher des trucs.
Des pouets.
Moi, j'aime les vrais contacts avec les vraies personnes. J'aime pouvoir discuter. Je suis une mammifère et je comprends pas ça. Voilà. Après, je ne juge pas. Hein. Je mets pas de jugement sur pourquoi les gens en ont envie, besoin. Moi, je viens de rencontrer et refaire une autre émission là avec Yves Marie de l'association Lève les yeux, qui milite activement pour le fait que les gens lèvent leurs yeux des écrans, et notamment les enfants et les adolescents, mais pas que, même aussi les adultes que nous sommes. Et voilà, ça je comprends plus, moi.
Écoute,
je comprends plus le sujet qui serait, est-ce qu'on pourrait revenir à des modalités, y compris dans les... Parce que là, vous parlez de le monde du livre, ou le monde de je sais pas quoi, ou la gauche, ou ta-ta-ta-ta-ta. Et en fait, ces groupes affinitaires, pour moi je les trouve très intéressants quand on peut se parler pour de vrai. Et donc, peut-être que c'est parce que je suis d'une autre génération, j'en sais rien, je sais pas pourquoi, parce que non, parce qu'Yves il est pas non plus, il est plus jeune que moi, donc je sais pas à quoi ça tient, mais ça ne me parle vraiment pas. C'est-à-dire que c'est même pas, j'ai essayé, hein, j'ai regardé, même Telegram, je le fais parce que à la radio, à Cause Commune, on m'a dit, il faut que tu sois sur Telegram pour parler avec, ok, donc j'ai Telegram sur un téléphone qu'on m'a prêté par ailleurs, parce que le mien n'a pas du tout la capacité de voir Telegram, donc très bien, mais ça ne me... Voilà, peut-être je suis un dinosaure, mais ça me parle pas.
Je te rejoins. Moi aussi, j'utilise Mastodon pour l'association April, parce que je suis salarié de l'April, mais j'ai pas cette envie, besoin. Je vois pas trop la nécessité de créer mon compte à moi. Et même chose pour un autre service qui est très utilisé sur le téléphone. J'ai pas envie de le nommer, mais que tout le monde a pour créer des groupes, s'envoyer des messages, etc. Vous avez compris peut-être de quoi je parle. Bah, il y a une alternative. Il y a le protocole XMPP qui permet de faire la même chose avec plusieurs clients. Bah, pareil. Même s'il y a l'alternative libre, moi, j'ai pas envie d'être connecté tout le temps à tout le monde. Donc, mais je suis contente qu'il y ait une alternative libre. Donc, je peux quand même dire aux personnes. Si vous avez cette pratique et si vous aimez ça, bah sachez qu'il y a une alternative libre. Ça, je suis contente de pouvoir le dire.
La seule chose dans ce que tu viens de dire là, celui que tu nommes pas, la seule chose que je comprends dans l'utilisation des gens, c'est les gens qui peuvent appeler à l'étranger pour pas cher.
Oui.
Ça, je le comprends.
Oui.
Parce qu'il y a vraiment énormément de personnes qui, ici en France, ont besoin d'appeler leur famille, etc.
Oui, j'ai eu un témoignage très récent sur ça.
Voilà. Mmh. Et ben là, ils utilisent ça. Mais là, je ne peux pas juger. Là, tu sais, c'est important quand même. Que les
gens probablement, je ferais pareil si j'étais dans le besoin. Hein. On va passer à un autre sujet. Donc, c'est Framaspace. Donc, c'est un nouveau, nouveau service proposé par l'association Framasoft. C'est un cloud, un espace de stockage convivial, mais pas que, hein, pas que stockage, pour collectifs et associations. Donc, c'est une alternative, bien évidemment, aux GAFAM. Et parmi les services, donc, il y a un service de visioconférence, une agenda, un wiki, donc pour faire de la documentation. Il y a plusieurs, pas mal de services. Ça a été lancé donc à peu près il y a un an. Il y a 10 000 comptes qui ont été mis à disposition par l'association Framasoft et j'ai eu l'information aujourd'hui de première main. L'équipe de Framasoft m'a communiqué qu'il y a à ce jour 1157 comptes qui ont été attribués. Voilà, c'est pas publié, hein, mais c'est le chiffre officiel. Donc il y a encore de la place. Donc parlons un peu de ce service. On en a déjà parlé d'ailleurs dans une émission de Libre à vous, l'émission 195 de décembre 2023. Vous faites libreavoue.org/195 et vous tombez dessus. Mais c'est bien d'en reparler encore. Et Pierre soulève le doigt. Donc,
oui, peut-être un mot sur les 1557 comptes. C'est pas 1157 personnes, ça va être 1157 instances, donc potentiellement des dizaines d'utilisateurs par instance.
Oui, pardon, c'est pas les comptes, oui. c'est les instances qui ont été attribuées, c'est les clouds, les espaces qui ont été attribués. Et il y a 50 contacts possibles qu'on peut déployer pour chaque.
D'accord.
Framasoft a été obligé.
50 000 personnes,
oui. Non. Il a été obligé, bien évidemment, de poser des limites, oui. Parce que voilà, c'est pas ça reste des datas, donc ça pèse, hein. et du coup voilà, c'est 50 contacts et c'est un espace de stockage, je sais plus la taille, je me souviens plus. Mais moi-même, je l'avais proposé à une association dont je suis membre, une association locale, et finalement, ils m'ont dit non, justement, pour le nombre de contacts, ça convenait pas. Mais sinon,
D'accord.
C'était 40 gigas l'espace.
Je crois qu'il avait des limites qui convenaient pas, mais en fait, c'est pensé en fait pour les petites structures, donc notamment collectifs. Ça peut être des associations, formelles ou pas. Donc des associations qui, à mon avis, sont surtout faites par des bénévoles et donc ils n'ont pas des moyens mirabolants, voire très très peu. Donc c'est conçu pour ça. Après, dès qu'une association a un peu plus de moyens, bah, elle peut choisir d'autres services. Je pense par exemple à Zurit, qui est une plateforme à plus ou moins équivalent, mise en place par les CMA et qui permet un petit peu les mêmes utilisations, mais qui du coup elle est payante avec des prix qui restent abordables pour des associations voilà, d'une certaine taille, mais pour les toutes petites, ça c'est vraiment un service chouette qui a été mis en place.
Puis ça permet de se mettre le pied à l'étrier sur ce genre de choses, parce que Nextcloud, donc c'est une sorte de concurrent, enfin un concurrent auto-hébergé et libre aux fonctionnalités comme Google Docs ou Google Docs plutôt, les choses comme ça. Ouais. Donc ça permet de partager des fichiers, de travailler collaborativement sur un tableur, de stocker des vidéos, de les voir même. Il y a aussi une fonction de pad dedans, donc qui doit être dérivée de, enfin équivalente à ce que fait Framapad, par exemple.
Etherpad, oui, voilà. C'est la possibilité de, voilà, un éditeur de texte en ligne, ouais, collaboratif, très, texte brut, très, très simple.
Donc, c'est une très bonne solution, déjà, pour évaluer un petit peu un logiciel sans avoir à se casser la tête à l'installer, donc pour...
Ouais, alors moi j'ai une autre utilisation là-dessus que je trouve vraiment cette initiative géniale. Enfin moi j'adore tout ce qu'ils font Framasoft. Mais là moi ce que je trouve c'est il y a ce que tu dis pour les petites associations, mais il y a surtout ce que je trouve ça super intelligent, c'est par exemple au contraire des associations qui ont chacune leur propre outil, leur propre scénario en interne et qui parce qu'elles se mettent en réseau ou parce qu'elles font un collectif sur un machin ont besoin d'outils communs et sans réécrire ou sans dire ah ben non on va prendre ton outil non le mien je sais pas quoi, hop on se met sur un cloud de cette sorte-là, c'est génialissime.
Tu as des exemples?
Nous, on va le faire là pour le REFIS. On va demander à Framasoft s'ils sont d'accord de nous
accepter. Tu peux rappeler là-dessus ce que c'est ce collectif?
Le REFIS, c'est un collectif de structures, justement, enfin une espèce de réseau de structures qui, comme Antanac, font du reconditionnement d'ordinateurs. Et en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais justement, un petit peu de ces outils-là. On ne va pas se remettre chacune à repayer pour quelque chose. Ça ferait trop. Et là, c'est génial. Et je pense que des petites structures pourraient aussi se mettre ensemble autrement pour des outils mutualisés avec ce genre d'outils mais sans en faire le leur quoi, mais vraiment que ça reste dans l'esprit alternatif et collectif.
Et vous avez déjà fait la demande auprès de Framasoft?
On va la faire.
Ah d'accord, le dossier c'est...
Okay. C'est un truc en cours, bah oui parce qu'il faut que ça se décide collectivement, donc c'est un tout petit peu plus long que si on décide tout seul.
Et c'est très important en fait les dossiers, on présente un dossier, ouais, et c'est l'avis insindacable de l'équipe de Framasoft qui décide, ouais. Voilà, c'est vraiment, c'est jugé sur dossier. Il faut remplir certains critères, on l'a dit, hein, la taille, le collectif, association petite, militante, etc. Mais bon, il y a encore plus de 8000 places. Oui, donc, voilà, si vous connaissez même des associations près de chez vous, si vous faites vous-même partie d'une association, d'un collectif, d'un syndic, j'en sais rien, bah, ça peut être une utilisation pour tester. Et puis, si ça vous plaît, peut-être que vous allez le faire aussi au niveau personnel, partager l'info avec d'autres personnes autour de vous. C'est comme ça aussi qu'on peut divulguer et promouvoir le libre autour de chez soi.
Florence, c'est pas pour le syndic ça marche, mais en tout cas effectivement il y a pas. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une structure associative et que les collectifs fonctionnent, même si officiellement ça n'existe pas. Moi ce que j'aime bien aussi c'est le côté suite globale qui fait que il y a énormément de d'outils libres et même au sein du libre d'alternatives sur un usage particulier. Et là, on a une suite globale où on n'a pas trop à réfléchir, dans la mesure où il y a une présélection. On se dit, là, j'ai un usage calendrier, c'est dedans. Là, je vais échanger avec telle personne en instantané, c'est dedans. Après, se pose la question de l'interface avec les autres entreprises ou autres associations. Et l'un des soucis aussi en termes de concurrence déloyale, c'est qu'il y a des suites. Enfin, sur les GAFAM, ils proposent aussi la gratuité en fait aux associations, et c'est là où, c'est pas cool, c'est pas cool et c'est cool.
Parce que c'est bien, ça prouve bien que la question du libre, c'est pas la gratuité.
Ah. Oui, c'est vrai.
Bah oui, mais non, mais tant mieux.
Mais alors, le truc, c'est que, enfin, typiquement, moi, il faut que je convainque ma collègue de tester autre chose, mais comme en entreprise, c'est des outils qui sont ceux qu'on connaît. De se dire, on change d'habitude et en termes d'interopérabilité, on risque de galérer
ouais,
un peu.
Mmh.
Aussi avec les invités qu'on a, etc. Bah, il y a quand même un coup d'entrée, quoi. Voilà. Et je suis très étonnée du chiffre que tu as donné, Isabelle, qui est que 10% de licences, enfin d'instances qui est.
Qui à peu près, oui.
Ouais, du coup, c'est cool. Parce que du coup, ouais, j'avais noté plus de 1 million d'assos aujourd'hui actives. Donc il y a quand même de la marge et bah, j'espère que les personnes qui écoutent du coup ça leur donnera envie.
Bah tester ça vaut le coup. Mmh. Étienne, mon collègue qui suit l'émission me rappelle qu'on peut aussi vous recommander la lecture des tribunes de l'April sous l'influence de TechSoup, et Solidatech qui propose aux associations qui sont très connues auprès des associations et qui propose aussi des solutions propriétaires. Et donc si vous voulez en savoir plus, on vous mettra la référence parce que je l'ai pas encore mise pour l'instant sur la page de présentation, mais elle y sera d'ici demain maximum. On avait trouvé un autre sujet, merci aux personnes qui interviennent avec moi aujourd'hui, et notamment à Florence qui avait trouvé énormément de sujets d'actualité. J'ai dû faire un tri tellement il y avait de sujets. Et finir ce café libre, je propose de parler de Datan. Alors je ne sais pas trop comment on prononce, à la française c'est Datan, j'imagine, c'est au Datan, à l'italienne, je ne sais pas, ça s'écrit Datan, et c'est un site de vulgarisation parlementaire basé sur les données ouvertes de l'Assemblée nationale, redistribuées par Data après mise en forme en licence ouverte, aussi sur data.gov. Qui prend la parole sur ce sujet?
Je vais commencer,
merci.
Je laisserai mes collègues embrayer. Du coup, c'est un usage intéressant pour le coup des données ouvertes. Le gouvernement et les instances publiques laissent souvent des données au format CSV ou JSON, donc c'est des formats de données, pour que des développeurs, développeuses puissent les restituer d'une autre façon ou les utiliser pour un usage autre. Et là, en ce moment, justement, avec les élections, soyons clairs, c'est difficile de... Enfin, c'est difficile. Des fois, on entend des arguments comme quoi telle partie n'a jamais été au pouvoir, donc pourquoi pas essayer, ce genre de choses. Alors que, justement, avec ces données, on peut voir factuellement pourquoi on a voté ou pas voté en fonction des partis. Notamment sur l'augmentation du SMIC, par exemple. Le fait de geler les loyers, l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc, je vous invite à regarder. Le seul souci que j'ai eu, moi, par rapport à ça... Alors déjà, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il y avait la réparation par rapport aux personnes homosexuelles qui ont été condamnées entre 45 et 82. Là, on a eu l'unanimité. Ce qui m'a surprise de tous les députés, tout le monde a massivement voté pour indemniser ces personnes. Bon, c'est la base, mais on pourrait croire que ce n'est pas le cas. Alors que sur l'augmentation du SMIC, dans la mesure où chaque parti a des arguments plutôt populistes ou pas, là on regarde factuellement que le Rassemblement National et Renaissance ont voté contre l'augmentation du SMIC. Et donc une des limites de ça, parce que du coup il y a quand même cette abstraction des data scientists et des data engineers et des développeurs et développeuses, c'est que quand on commence à regarder qui a voté pour, contre ou s'est abstenu sur chacun de ces éléments, il y a quelques raccourcis. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à faire attention en le regardant, de vraiment regarder le détail. Quand on regarde globalement, on a l'impression que c'est pour ou contre, et ils vont donner la majorité. Enfin, c'est dur de se dire à partir de quand on dit que telle partie à voter pour ou contre, et sur chaque partie, des fois, il y a des divergences aussi. Donc, c'est vraiment en cliquant dedans qu'il y a un détail un peu plus élaboré qui dit tous les partis ont voté, par exemple, sur l'IVG, dans la Constitution. Donc, c'est passé. Majoritairement, la plupart des partis ont voté pour sa constitutionnalisation, mais sur les 8% qui ont voté contre, c'est uniquement le Rassemblement National et les Républicains. Pareil pour le gel des loyers. Donc c'est un bon outil de d'éducation, je pense, qui remet à la place aussi les positionnements de chaque parti et de chacune de nos représentants. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à dire.
Oui, j'avais des choses à ajouter. En fait, effectivement, j'ai récemment regardé des votes sur la loi SRN, par exemple, et il y a des choses qui sont, il y a des partis qui votent contre certaines lois parce qu'ils sont dans l'opposition et dont on sait très bien qu'ils voteraient plutôt pour. Enfin, donc du parti qui se présente en défenseur des libertés, ceci, cela, mais qui en fait, s'ils étaient au pouvoir, feraient probablement l'inverse. Donc c'est assez délicat d'évaluer. Donc c'est évidemment un élément factuel, objectif à voir, mais il faut aussi comprendre. Enfin, il y a tout un tas de mécaniques derrière qui sont assez complexes à analyser. Et, alors ce genre de site est intéressant parce que ça fonctionne grâce à l'open data, effectivement, et typiquement en matière législative, par définition, une loi est publiée. Les amendements sont la plupart des débats sont publics, donc c'est super intéressant. Il y a tout un tas de critères sur ce site qui n'étaient pas forcément, parce qu'il y a déjà eu des initiatives similaires, mais uniquement sur l'absentéisme ou qui n'étaient pas forcément suffisamment pertinents, parce que typiquement, le truc un peu populiste, c'est de dire, regardez, la séance publique, il y a 30 députés qui ont voté la loi sur 500, donc tout le monde s'en fout, c'est n'importe quoi, mais en fait, la partie finale de séance plénière, entre guillemets, pour voter la loi, c'est la fin d'un aboutissement d'un long travail législatif où seuls les spécialistes du sujet effectivement vont voter. Donc effectivement, tous les députés sont pas spécialistes de tous les sujets. Ouais. Et donc en fait, il y a tout un tas de critères dans le site qui sont assez intéressants parce qu'ils évaluent différemment la participation au scrutin solennel, suivant la spécialisation du député, suivant les votes en général. Ils évaluent la proximité des politiques à leur groupe. Est-ce qu'un député vote plus ou moins comme son groupe ou pas? La proximité avec un groupe, donc de quel groupe un député tel ou tel groupe, de quel groupe est-il vraiment le plus proche au niveau de ses votes? La cohésion d'un groupe, est-ce qu'il y a une bonne harmonie entre les votes du groupe? Alors ça, une bonne harmonie, c'est pas forcément un bon signe, parce que ça veut dire que le groupe est bien tenu aussi éventuellement. Et puis l'âge moyen en France, alors là j'ai pas dit le critère exactement, mais voilà, il y a tout un tas de critères très intéressants, mais il faut pas oublier que effectivement derrière tous ces critères quantitatifs, il y a aussi du travail législatif derrière en commission qui est assez compliqué à évaluer, en fait, à présenter sur un site de ce type-là. C'est un peu la limite de l'exercice, mais c'est de toute façon toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire avec les données ouvertes.
Isabelle?
Juste rapidement, parce que je vois que l'heure tourne et qu'on va bientôt arriver à la fin. Donc rapidement, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci de la présentation. Et surtout, merci d'avoir permis dans le choix, parce que là, j'ai pas contribué du tout cette fois-ci à proposer des sujets. Et donc, je trouve ça génial de finir par celui-là. Ça me va trop bien. Et donc, oui, que chacun aille voir et se rende compte de ce qui se passe pour de vrai dans l'Assemblée nationale.
Merci à nos invités pour ce café libre d'aujourd'hui. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs de cette saison, mais il y aura d'autres pour la saison 8. Donc bel été à vous.